écoutez Europe 1,
il est 22h, le journal Isabelle Millet.
Aucun consensus n'est possible sur ces questions et pourtant nous avons énormément travaillé ensemble avec sérénité, avec respect, avec profondeur.
La ministre de la Santé se félicite ce soir après l'adoption de la loi bioéthique qui inclut la PMA pour toutes, adoption à une très large majorité à l'Assemblée nationale. Le texte prend maintenant la direction du Sénat. Édouard Philippe s'efforce de clore la polémique et tranche sur la question de la laïcité. Le droit est clair, dit-il. On peut porter un voile quand on accompagne une sortie scolaire, mais on n'a pas le droit de faire du prosélytisme. À Marseille, une évasion et des questions ce soir. 4 détenus se sont fait la belle en plein transfert du tribunal à la prison.
Ça ne nous étonne pas quelque part, parce qu'on en manque de personnel, de matériel, que ce soit dans la police, dans la pénitentiaire ou tous les autres corps de force de l'ordre.
Les surveillants, on l'entend, ne sont pas vraiment surpris. L'un des 4 fugitifs s'est rendu aujourd'hui. On va revenir sur cette évasion vraiment peu banale avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Trop d'agressions, pas assez de moyens et de reconnaissance. Les pompiers ont manifesté aujourd'hui à Paris. Pas moins de 9 syndicats ont sonné la mobilisation face à une situation qu'ils qualifient de gravissime. Vous faire vacciner par votre pharmacien, c'est désormais possible. Et ce, sans passer chez le médecin ou chez l'infirmière. Et puis le tracé du Tour de France 2020, officiellement dévoilé aujourd'hui, un départ de Nice, des cols, des dénivelés, un parcours taillé pour les grimpeurs. Après les intempéries de ces dernières heures, le temps restera instable demain, en particulier sur un grand quart nord-ouest avec encore des averses dans le nord. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir le président du Conseil supérieur du notariat, Jean-François Humbert, alors que 2019 s'annonce comme une année record pour l'immobilier.
Europe 1.
C'est une première étape, mais elle est très symbolique. L'Assemblée nationale a donc adopté ce soir le projet de loi bioéthique avec sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Après des débats parfois enflammés, 359 voix pour, 114 contre, sous les applaudissements de la majorité. Alors le texte va maintenant être transmis au Sénat où il sera discuté en janvier. On sait qu'il y avait plusieurs points importants. Qu'est-ce qui a été voté ce soir précisément, Virginie Riva? Au final, que reste-t-il dans ce projet de loi?
Alors, la mesure phare, c'est évidemment l'extension de la PMA aux mères seules et aux couples de femmes homosexuelles. Pour ces dernières, il y a dans cette loi une révolution sur la filiation. Elles devront désormais signer une sorte de contrat chez le notaire et aucune des deux mères n'aura de supériorité sur l'autre, qu'elle ait accouché ou pas. Autre mesure fondamentale, l'accès aux origines garanti pour chaque enfant qui naîtra dorénavant de PMA avec don de sperme. Il aura le droit de connaître son géniteur à ses 18 ans. Autre acquis de la loi, la possibilité donnée aux femmes de conserver leurs ovocytes. Ce qui est très surprenant, c'est que tout est passé assez facilement, malgré les oppositions de la droite et de la Manif pour tous, des oppositions exprimées dans un hémicycle assez clairsemé, où seuls les spécialistes du sujet sont restés. Raison notamment pour laquelle il y a eu un couac à la dernière minute, cet amendement passé dans la nuit sur les enfants nés de GPA, supprimé depuis. Il n'est nulle part question de GPA dans cette loi. Maintenant, le texte arrive au Sénat, où les sénateurs sont vent debout contre l'ouverture de la PMA aux mères seules. La loi n'est pas là, selon eux, pour créer des familles monoparentales. Et contre le remboursement de la PMA par la Sécurité sociale pour les femmes seules et les couples de femmes homosexuelles. L'examen risque d'y être plus houleux, mais au final, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot.
Les précisions de Virginie Riva. On peut porter le voile quand on accompagne une sortie scolaire. Mise au point cet après-midi d'Édouard Philippe après la cacophonie gouvernementale de ces derniers jours. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, avait estimé que ça n'était pas une pratique à encourager. Position contestée au sein de la majorité. Vous savez qu'à l'origine de tout ça, il y a la polémique lancée à Dijon vendredi dernier, un élu frontiste qui s'en était pris à une mère voilée qui accompagnait une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Aurélie Herbemont, c'est une façon pour le Premier ministre aujourd'hui de siffler la fin de la récré?
Ah oui, Édouard Philippe a voulu mettre un terme à la cacophonie car l'écart est immense entre Jean-Michel Blanquer d'un côté, pour qui le voile n'est pas souhaitable dans notre société, et le député Aurélien Taché. Il déplore que le Rassemblement national puisse récupérer les mots du ministre. Une médiation sera même organisée par En Marche entre les deux hommes pour calmer le jeu. La majorité étale ses divisions, la droite s'engouffre dans la brèche. Sénateurs et députés LR veulent interdire aux mamans voilées l'accès aux sorties scolaires, mais le Premier ministre est contre une loi de ce type.
Je ne pense pas pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. L'enjeu, c'est de combattre efficacement les dérives communautaires. L'enjeu, c'est bien d'éviter, me semble-t-il, que les enfants à raison des convictions religieuses pouvant relever du communautarisme ou de l'islam politique de leurs parents, échappent à l'école. Le danger de la déscolarisation est bien plus grand que l'expression d'une liberté aujourd'hui reconnue par la loi.
Alors, il y a une personne dont on n'a pas entendu la voix dans ce débat, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas exprimé sur la laïcité.
Aurélie Herbebon du service politique d'Europe 1. Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans ? C'est avec ce titre que 90 personnalités, dont l'acteur Omar Sy, ont pris la plume. Ils demandent urgemment à Emmanuel Macron de condamner ce qu'il qualifie d'agression.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h05, merci d'écouter Europe 1. On les voit rarement exprimer leur colère dans la rue et pourtant elles couvent cette colère depuis des mois. Les pompiers ont manifesté nombreux cet après-midi à Paris. Ils étaient plusieurs milliers, venus de toute la France, en uniforme. Une profession à bout qui réclame des garanties autant sur la sécurité lors des interventions, mais aussi davantage de moyens et une plus grande reconnaissance.
C'est pour défendre une profession où on ne tient pas compte de l'âge de départ en retraite. Vous allez avoir des gens qui vont porter secours non plus avec un âge de 50 ans, 55 ans, mais pourquoi pas 60 ans. Imaginez quelqu'un de 60 ans qui monte une échelle en pleine nuit à 3h du matin pour la votre fenêtre s'il y a un appartement en feu. Pour ce type de profession, c'est carrément suicidaire.
Le gouvernement ne nous soutient plus du tout. Il y a de plus en plus d'agressions, que ce soit verbales ou physiques. C'est arrivé chez quelqu'un et cette personne est super énervée. Parce que nous, on est là pour sa femme. Et puis lui, il commence à nous sortir un couteau, un marteau.
Et à la base, vous aviez été appelé pour quoi ? C'était pour un malaise ?
C'était pour un malaise. Pour un malaise. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le quotidien.
Et voilà le quotidien des pompiers qui étaient dans la manifestation parisienne cet après-midi au micro Europe 1 de Jean-Jacques Herry. Des pompiers très sollicités ces dernières heures avec les intempéries. Des dégâts en particulier dans les Bouches-du-Rhône. À Arles, une mini-tornade a frappé le quartier de Pont-de-Croix. 5 personnes ont été légèrement blessées. 3 fugitifs, toujours dans la nature, au lendemain de l'évasion de 4 détenus hier soir d'un fourgon qui les transférait du tribunal de Marseille à la prison des Baumettes. Le 4e s'est rendu aujourd'hui. Alors cette évasion pose évidemment beaucoup de questions. Les policiers étaient-ils assez nombreux ? Le fourgon était-il en état de transporter ces détenus qui visiblement n'ont pas eu trop à forcer pour ouvrir les portes ? Personne ne s'en est rendu compte. Écoutez le témoignage du surveillant qui a découvert qu'il manquait à l'appel.
C'est du matériel vétuste, c'est utilisé tous les jours, le camion est vieux. Bah, vous savez, sur le trajet avec le deux temps tout le long, les détenus quand ils sortent, pour eux, on dirait qu'ils partent au Club Med, ils crient, ils bougent, ils sautent, ils chantent. Faut vraiment entendre un gros bruit pour s'inquiéter, quoi. Enfin, ça ne nous étonne pas quelque part, parce qu'on en manque de personnel, de matériel, que ce soit dans la police, dans la pénitentiaire ou tous les autres corps de force de l'ordre.
Un témoignage édifiant recueilli pour Europe 1 par Stéphane Frangy. Salomé Legrand, c'est vous qui avez révélé cette évasion dès hier soir sur Europe 1. Alors depuis, on le disait, l'un des 4 fugitifs s'est rendu, mais ce témoignage qu'on vient d'entendre interroge. Et vous avez pu, Salomé, obtenir de nouveaux éléments.
À commencer par le récit de l'un des détenus qui était à l'intérieur du fourgon et qui a choisi de ne pas s'enfuir. Il est en ce moment jugé dans un tentaculaire dossier de blanchiment et il a expliqué ce matin à l'audience que certains avaient réussi à ouvrir les mini-cellules du fourgon, qu'il n'y avait pas de policiers à l'arrière et que la portière était ouverte, qu'elle battait dans les virages. Les 4 détenus se sont donc fait la belle à pied et cette évasion des plus artisanales laisse les autorités perplexes. On cherche encore à comprendre comment ça a pu se passer, me soufflait-on tout à l'heure. Ce qui interroge côté pénitentiaire, c'est le nombre de détenus pour une même escorte, 17 du jamais vu, surtout dans un fourgon qu'on nous dit quasi classique. Ce transfert était assuré par la police pour l'une des dernières fois. C'est un élément de contexte important. Cette compétence des extractions judiciaires a été progressivement récupérée par l'administration pénitentiaire. Fin de la passation le 4 novembre prochain. Est-ce que cela permet d'expliquer la vétusté du matériel ? L'inspection générale de la police nationale a été saisie.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1. Isabelle Millet.
Et la pression internationale sur la Turquie s'intensifie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira de nouveau demain. Sur le terrain, la situation reste très tendue. Les soldats turcs qui s'en prennent aux Kurdes font face actuellement à l'armée syrienne. Le président turc a affirmé tout à l'heure que son pays poursuivrait son opération en Syrie avec ou sans le soutien du monde, dit-il. Donald Trump annonce, lui, que le vice-président américain Mike Pence et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rendront demain en Turquie afin de négocier un cessez-le-feu en Syrie. Mike Pence qui rencontrera le président turc après-demain. Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, se rendra, lui, prochainement en Irak pour discuter du sort des djihadistes étrangers. C'est un procès très attendu par le monde policier qui s'est ouvert aujourd'hui. La cour d'assises des mineurs d'Evry juge 13 jeunes de la cité de la Grande Borne qui avaient attaqué des agents au cocktail Molotov, 4 policiers grièvement brûlés lorsque leur voiture a été prise pour cible à Viry-Châtillon. C'était en pleine journée, en octobre 2016. Guillaume Bier, les accusés avaient entre 16 et 21 ans à l'époque et le procès s'est ouvert ce matin. Il va se poursuivre à huis clos.
Oui, à huis clos, puisque 3 des accusés étaient encore mineurs au moment de l'attaque. Ce matin, à l'ouverture du procès, on a vu l'émotion d'une policière, l'une des fonctionnaires blessées, en larmes sur le banc des parties civiles, en voyant les accusés dans le box. Une policière victime qui, c'est rare, assiste à l'audience en uniforme, comme un symbole face aux agresseurs présumés. Un symbole aussi pour toute une profession qui attend beaucoup de ce procès, selon Loïc Travers, secrétaire national du syndicat Alliance.
Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Grigny, la Grande Borne, ça résonne comme des quartiers sensibles, difficiles, où il est très difficile d'exercer le métier de policier. Là, aujourd'hui, il y a une vraie preuve pour la justice de passer et de soutenir, entre guillemets, les policiers au regard de ce qu'ils ont subi. Et c'est ça qui est très important pour les policiers. C'est sûr que si, effectivement, on aboutit à une relaxe générale, ce sera une catastrophe à la fois pour le moral des policiers et aussi pour les 4 victimes qui auront bien du mal à se reconstruire.
Une forte attente donc à l'extérieur, tandis que dans la salle des assises, à huis clos, les jurés vont avoir 8 semaines pour examiner cette affaire, établir les éventuelles responsabilités des accusés qui, pour la plupart, nient toute participation à cette violente attaque.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Un nouveau collège à l'arrêt aujourd'hui à Strasbourg. La semaine dernière, 3 mineurs de moins de 15 ans ont menacé une enseignante avec une arme factice. La communauté éducative, toujours sous le choc, demande davantage de moyens pour assurer la sécurité. Bruno Le Maire envisage de taxer les avions et les bateaux. Le ministre de l'économie juge incompréhensible que les voitures et leur carburant soient taxés, mais pas les autres modes de transport. Il trouverait normal d'instaurer donc une taxe européenne sur le carburant des avions et des bateaux. Bruno Le Maire, qui, notez-le, sera demain matin à 8h20 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Le lancement aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe avec une grande nouveauté cette année, puisque vous aurez la possibilité de vous faire vacciner désormais par votre pharmacien sans passer par un cabinet de médecin ou d'infirmière. En tout cas pour les personnes de plus de 65 ans ou celles dites à risque ou en contact avec des nouveau-nés ou des personnes malades. Pour Europe 1, Caroline Baudry a assisté dans une pharmacie parisienne aujourd'hui aux toutes premières piqûres.
Dans cette arrière-boutique transformée en salle de vaccination, au milieu des stocks de médicaments, Chantal a pris place sur un petit fauteuil. À 89 ans, le vaccin contre la grippe pour cette retraitée, c'est chaque année.
La température ?
Non.
Allez hop, tout va bien ?
J'ai rien senti. Comme ça, je suis débarrassée, surtout que je ne peux pas tellement sortir.
Chantal en a eu pour 10 minutes et elle est déjà 20e patiente de Stéphane. Ce pharmacien de Paris enchaîne les piqûres depuis ce matin. C'est sans rendez-vous, gratuit et tellement pratique cette alternative à la vaccination chez le médecin.
Une petite appréhension pour la première, mais tout se passe bien. Il suffit de bien faire les choses comme on nous les a apprises. Et c'est aussi pour montrer que même les pharmaciens d'officine sont dans la capacité de faire ce genre de petits actes.
Une pharmacie sur deux s'est donc prêtée après formation à la vaccination contre la grippe.
Le reportage de Caroline Baudry pour Europe 1. Le trafic a repris progressivement à l'aéroport d'Orly après une grosse panne informatique, mais il faut encore s'attendre à quelques retards toute la nuit. Panne qui a affecté les systèmes d'enregistrement des bagages qui sont passés en mode manuel. Et puis je vous le disais, le Tour de France 2020 fera la part belle aux grimpeurs. Il est dessiné pour les coureurs qui osent, dit son directeur. C'est bien simple, il n'y a jamais eu de tour aussi difficile dès les premiers jours avec un départ à Nice et une arrivée au sommet dans les Alpes dès la 4e étape. Un parcours très montagneux donc, qui devrait nous réserver des surprises, Axel May.
Oui, la montagne commencera 24 heures seulement après le départ de Nice. Le peloton ira dans l'arrière-pays niçois avec notamment le col de Turigny. Puis deux jours plus tard, première arrivée au sommet dans les Hautes-Alpes, dans la station d'Orcières-Merlette, à plus de 1800 mètres. C'est rarissime d'avoir une arrivée en altitude aussi rapidement. Après un premier passage par le Massif central, puis une traversée express des Pyrénées, hop, remontée vers la Vendée pour une étape carte postale entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Un petit passage par Saran, là où il y a le musée Jacques Chirac. Le Massif central fera alors une nouvelle et belle apparition avec le Puy-Marie, le Jura avec le Grand Colombier, les Alpes encore avec en particulier cette arrivée inédite au col de la Lauze, au-dessus de Méribel. Et la veille des Champs-Élysées, il restera encore un contre-la-montre individuel à la planche des Belles-Filles dans les Vosges. Bref, un parcours montagneux, nerveux, enthousiasmant, disent les coureurs comme Julien Alaphilippe.
C'est difficile d'établir un scénario déjà maintenant. Déjà en temps normal, il y a toujours un peu des rebondissements, mais là, un parcours comme ça, ça peut qu'offrir un beau spectacle.
Et si le spectacle du Tour l'an prochain est au niveau de celui de cet été, alors quel que soit le prochain vainqueur, le Tour sera réussi sportivement.
On l'espère en tout cas. Axel May du service des sports d'Europe 1, rendez-vous le 27 juin pour le départ de ce Tour de France. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques. Ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
La météo avec Anissa Haddadi, bien sûr. Et après les nombreux orages dont on a beaucoup parlé ces dernières heures, le ciel restera plutôt capricieux demain, Anissa.
Oui, encore un temps très agité, effectivement, Isabelle, de la Bretagne, des Pays de la Loire jusqu'aux frontières belges. Le ciel sera nuageux demain avec des averses soutenues tout au long de la journée. Un peu plus au sud, de l'Aquitaine à l'Alsace, le ciel reste voilé avec quelques gouttes possibles. Gardez quand même un parapluie près de vous. Et puis plus au sud, du Pays Basque à la Franche-Comté, en passant par le Limousin, le Massif Central, le Languedoc-Roussillon, le littoral méditerranéen, la vallée du Rhône, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Et bien là, après la dissipation des nuages matinaux, vous aurez droit quand même à de belles éclaircies. Les températures, elles sont en nette baisse. 4 à 15 degrés le matin, il fera 4 petits degrés seulement à Gap demain matin, 11 à Paris, 15 à Biarritz. La baisse est très sensible demain après-midi dans le sud, avec seulement 23 à Bastia, 22 à Nice et Toulouse, 20 à Lyon et 16 petits degrés pour Paris.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du Conseil supérieur du notariat, Jean-François Humbert, alors que 2019 s'annonce comme une année record pour l'immobilier. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h16, merci d'écouter Europe 1 et comme tous les soirs, à cette heure-ci, on va s'intéresser maintenant à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui progresse sur fond de nouvelles internationales un peu plus rassurantes.
Oui, un petit peu, ça va mieux on va dire, un petit peu plus rassurante, oui, parce qu'il y a eu cet accord commercial, enfin un pré-accord, on ne sait plus trop comment l'appeler,
avec les Chinois, oui.
Entre la Chine et les États-Unis, c'était en fin de semaine dernière, alors on capitalise un petit peu effectivement sur cet accord, et puis aussi il y a beaucoup de rumeurs autour du Brexit. Avec cet après-midi, on parlait d'un accord peut-être même ce soir. Ça a fait remonter fortement la livre sterling. En tout cas, il pourrait se passer des choses avant la fin de la semaine en fonction du calendrier européen.
Oui, le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, il juge très possible de parvenir à un accord cette semaine. Bon, c'est voilà. Pas fait encore pour
Alors,
l'instant.
C'est pas encore tout à fait clair, mais ça pourrait se décanter. Ça donne donc des marchés en hausse. Le Dow Jones plus 0,89%, 27 025 points. Le Nasdaq plus 1,24%. Ce sont de nouveau les valeurs de technologie qui en profitent. 8 149 points sur le Nasdaq. Et puis les comptes trimestriels des banques américaines sont aussi bien accueillis. À commencer par ceux de JP Morgan et de Citigroup. JP Morgan ce soir gagne 3% à $120 et Citigroup progresse d'1,4%. Du côté des valeurs de technologie, donc Apple est stable, c'est un petit peu l'exception, $235,30. En revanche, ça monte sur Microsoft plus 1,5%, Intel plus 2%, IBM plus 0,7%. Le pétrole, toujours en berne, moins 1%, $53 le baril. Exxon est pratiquement stable sur les devises. Donc l'euro campe au-dessus des indices, ça ne bouge pas vraiment sur l'euro. Indice 30 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, Didier, a aussi fait bonne figure aujourd'hui en hausse de plus de 1%.
Oui, logiquement, plus 1,05%. Là aussi, sur les rumeurs concernant le Brexit, on est à 5702 points quand même sur le CAC 40. Donc juste au-dessus des 5700 points, avec ces espoirs de solutions sur le dossier du Brexit qui ont soutenu la tendance. Puis certaines valeurs sont nettement remontées avec de bonnes nouvelles concernant Arkema dans la chimie, plus 3,5%. Kering, plus 3% avec BNP. Saint-Gobain, plus 3% aussi, 37,91 €. Saint-Gobain qui cherche des partenaires pour sa filiale Lapeyre. On a Ubisoft qui remonte de 2% aussi avec des valeurs industrielles comme Peugeot, comme STMicro ou Bouygues en hausse de 2%.
Et puis il y a toujours une exception du jour et aujourd'hui c'est le titre Atos qui reste à la traîne.
Oui, le groupe de services informatiques Atos recule d'1,6%. Déception donc aujourd'hui, 64,34 €. Le marché craint toujours un ralentissement de l'activité dans le secteur, en particulier aux États-Unis où le groupe Atos s'est récemment renforcé. Donc Atos en baisse ce soir à la clôture d'1,6%, 64,34 €. Sur les autres places financières, ça monte avec cette histoire de Brexit qui pourrait se décanter. Le DAX plus 1,15% à Francfort, Bruxelles plus 1,2% avec Madrid, Milan gagne aussi 1,2%. On rappelle le CAC 40 en hausse d'1,05%, 5702 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le président du Conseil supérieur du notariat.
Bonsoir Jean-François Humbert.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du Conseil supérieur du notariat. Vous êtes encore notaire aujourd'hui à Paris, je crois dans le 18e. S'il y a bien un sujet qui fait parler, alors là partout en France, c'est L'immobilier, on achète, semble-t-il, toujours à tour de bras dans l'ancien. Les ventes ont même été étonnamment soutenues cet été. Est-ce que la tendance se poursuit sur septembre-octobre ?
C'est un mouvement, effectivement, qui se poursuit pour une raison assez simple. C'est que certes, les prix augmentent d'une façon générale, mais en même temps, les taux d'intérêt étant extraordinairement bas, comme on n'en a jamais connu, ces prix peuvent être financés. Et c'est bien parce qu'on peut payer le prix d'une maison ou d'un appartement que le marché est dynamique.
Jusque-là, on n'arrêtait pas de dire « attention, c'est le moment d'acheter parce que les taux vont remonter ». C'est de moins en moins vrai puisque les taux vont maintenant rester sensiblement bas pendant sûrement des années. On a le temps d'acheter.
Les taux d'intérêt sont bas et la directrice nouvelle de la Banque européenne a bien fait savoir que cette politique des taux bas serait poursuivie. On sait que dans les prochains mois, les taux d'intérêt resteront ce qu'ils sont. Les durées de prêt également augmentent, ce qui fait qu'avec une même échéance mensuelle, on peut acheter un capital plus élevé. Alors ça n'interdit évidemment pas d'être sélectif et il faut au contraire... Quand des prix sont aussi importants, il faut être sélectif parce que tous les appartements ne se valent pas, tous les immeubles ne sont pas de la même
sélectif,
qualité
dans
le même
état.
Ça veut
dire, faites attention à ce que vous achetez. N'achetez pas n'importe quoi sous prétexte que vous pouvez le faire.
Prenez le temps de la réflexion. Lorsque le marché est totalement déséquilibré et que l'on vous dit « attention, demain ça coûtera plus cher, attention, demain vous n'aurez plus les mêmes crédits », on a un peu tendance à se précipiter. Ne faisons surtout pas cela. Surtout que la semaine de l'immobilier qui vient de s'achever montre bien que l'achat d'un appartement, qui est l'achat d'une vie tout de même, même si on en change cinq fois dans sa vie, l'achat, c'est l'un des moments les plus importants, qui est enthousiasmant, mais qui est en même temps une source d'inquiétude, une source d'angoisse.
Oui, vous avez fait une enquête Harris qui est sortie il y a quelques jours maintenant, et c'est vrai qu'on a ces deux sentiments qui sont totalement paradoxaux. D'un côté, on est enthousiasmé à l'idée d'acheter, et en même temps, ça nous crée un ulcère.
Cette étude est passionnante pour plusieurs raisons, parce que elle démonte certaines idées un peu toutes faites. Oui, c'est un moment enthousiasmant de faire une acquisition, mais c'est une opération qui est compliquée. C'est une opération qui engage sur une très longue durée, qui engage toute sa famille, pas simplement soi-même. Et donc, on voit bien que c'est une opération qui nécessite un accompagnement très long. Pas seulement uniquement sur le volet financier, mais aussi sur le choix, l'opportunité du choix, sur le lieu.
C'est là où le rôle du notaire doit être renforcé.
Et il ne faut pas hésiter à l'interroger le plus en amont possible. Il connaît le notaire, le marché local. Il sait quels sont les secteurs qui ont des avantages, d'autres qui en ont moins. Et il faut les interroger pour savoir ce qu'ils pensent de tel quartier plutôt que de tel autre.
Est-ce que 2019 sera une année record, à nouveau ?
2019, en chiffres bruts, sera effectivement... une année record où il y aura plus d'un million de ventes d'appartements ou de maisons anciennes. On n'a jamais connu, les chiffres étaient plutôt entre 800 000 et 1 million de données, un peu moins en 2018, le million, le cap du million est dépassé.
On n'aura jamais vendu autant d'appartements de toute l'histoire qu'en 2019, c'est ça que vous nous dites ?
C'est exact, avec toutefois un chiffre qu'il faut modérer. Ce chiffre d'un million correspond à 3% du parc. Or, le parc immobilier de logements en France augmente en gros d'1% par an. Ce qui signifie que quand en 2000, 800 000 logements étaient vendus, c'est le même pourcentage qu'un million 20 ans plus tard.
Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, on parle en chiffres bruts et on regarde la carte globale. Mais quand on va dans le détail, on se rend compte que c'est un marché extrêmement disparate qui est vraiment porté principalement, voire uniquement par les grandes métropoles, Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, et qu'en revanche, il y a des zones qui sont extrêmement compliquées.
Les 22 métropoles sont assez dynamiques, il y a une activité, il y a des entreprises qui s'installent, et donc effectivement, il y a une croissance, on construit, il y a de l'emploi. En revanche, dans d'autres territoires plus reculés, le phénomène n'est pas du tout le même, au contraire, l'immobilier voit ses prix baisser. Et dans cette enquête Harris Interactive, ce qui est également intéressant, c'est que souvent, on se dit, mais les jeunes ne peuvent plus acheter dans les grandes métropoles, les prix sont trop élevés, comment font-ils ? Eh bien, l'on s'aperçoit que 50% des Français qui ont le plus de difficultés à faire l'acquisition, c'est au contraire dans les milieux ruraux, parce qu'ils ont moins de revenus, parce qu'ils sont plus âgés, et donc ils n'accèdent plus au crédit. En revanche, dans les grandes métropoles, là où les prix flambent, l'âge au contraire est de plus en plus jeune. Auparavant, l'âge moyen de la première acquisition tournait aux alentours de 37 ans. Il est descendu à 32 ans. Et le premier achat, le pic du premier achat, se constate même entre 25 et 30 ans. Parce que les jeunes, tout au moins, ont bien compris qu'un parcours résidentiel, ça se commence tôt. On déménage en gros 5 fois dans son année. Eh bien, ça n'est pas en commençant à 50 ans qu'à 60 ans, et notamment à l'âge de la retraite, on sera définitivement propriétaire de son logement. Il faut commencer tôt, puis le vendre, en racheter, en s'adaptant à ses besoins, en bougeant également, parce que professionnellement, on change de lieu de vie.
30% de hausse, je crois, à Paris sur les 10 dernières années, 40% de hausse, si je ne dis pas d'ânerie, à Bordeaux en 2-3 ans. Est-ce que les prix vont continuer d'augmenter? C'est tout simplement là aussi historique.
Tout le monde aimerait effectivement qu'une boule de cristal puisse répondre à cette question. Je crois qu'en réalité, il faut l'aborder différemment. Un achat immobilier ne peut pas, ne doit pas se faire sur du court terme, contrairement à certains produits financiers qu'on pourrait trouver. Un achat immobilier, ne serait-ce que parce que les droits de mutation, les droits d'enregistrement à l'acquisition sont élevés, 7-8% de frais sur l'achat. Donc cette acquisition, il faut la faire avec une perspective suffisamment longue, de telle sorte que si les prix venaient à diminuer une certaine année, eh bien, ils repartiront à la hausse.
Donc, on ne fait pas de pari et on regarde ce qui va se passer, mais on reste raisonnable. C'est le mot,
trie.
Je crois. Voilà, et on trie et on est raisonnable. Un grand merci, Jean-François Humbert, le président du Conseil supérieur du notariat, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe.
Merci beaucoup à vous et à demain, Emmanuel Dutheil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, imprimez vos timbres depuis votre bureau.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Le port du voile islamique divise le gouvernement et la majorité, titre Le Figaro. Deux lignes s'affrontent au sein de la Macronie sur les questions de laïcité. Une querelle ravivée par les propos de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a estimé que le port du voile n'était pas souhaitable, provoquant des remous internes. Le journal L'Opinion revient lui aussi sur la mise au point d'Édouard Philippe cet après-midi sur le port du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires. Voile, signal faible, trouble fort, titre L'Opinion. La majorité cherche à garder la tête froide pour éviter toute stigmatisation des musulmans. Une grande enquête demain à la une de Libération intitulée « Quand les profs n'en peuvent plus ». Ils sont enseignants, directeurs, chefs d'établissement, submergés par un volume de travail croissant et accablés par le manque de moyens. Ils se sentent broyés par une école qu'ils portent pourtant à bout de bras. Sentiment d'impuissance, frustration, manque de reconnaissance, absence de soutien de la hiérarchie. Le suicide il y a près d'un mois d'une directrice d'école à Pantin a mis en lumière le malaise au sein des personnels de l'éducation nationale. Dossier complet sur ce sujet à lire donc dans Libération. Impôts, le vrai bilan des mesures Macron. C'est le titre des Échos. L'Institut des politiques publiques montre que les classes moyennes sont les grandes gagnantes de la politique fiscale. Les mesures gilets jaunes ont changé la donne. Les gains de pouvoir d'achat des 1% les plus riches sont revus à la baisse. Désobéir, jusqu'où s'interroge pour sa part le journal La Croix, qui rappelle que les actions de désobéissance civile se multiplient dans le monde entier. Le jugement de 8 décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron et d'un vidéaste est attendu demain à Paris, un mois après la relaxe de 2 militants écologistes à Lyon. Les actions de désobéissance civile se multiplient ces derniers mois, en lien notamment avec les conséquences du changement climatique. Aux États-Unis, les Californiens renouent avec ce type de mobilisation qui était très en vogue dans les années 60. Et puis Kurdistan syrien, silence, on tue, c'est le titre de Courrier international. Le retrait américain a ouvert un boulevard à l'armée turque lancée dans une offensive sanglante contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. En Europe, le spectre d'un retour de Daesh inquiète. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix, comme tous les soirs pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission et je vous dis à tout à l'heure, 23h.
À tout à l'heure.